L'objectif de cette vidéo va être de présenter la notion de classe en Python. Après deux vidéos sur les principes, on va maintenant se concentrer sur des choses nettement plus concrètes. Qu'est-ce qu'on va trouver dans une classe Python? On va trouver un certain nombre d'attributs, de champs, de variables d'instance, que j'ai déjà évoqué dans les vidéos précédentes, et un certain nombre de méthodes, qui sont l'équivalent au sein des classes et des objets des fonctions dont vous avez l'habitude. On verra qu'il y a des méthodes particulières qui sont appelées constructeurs. Si vous venez d'un langage de programmation orienté objet comme C++ par exemple, vous constaterez en Python l'absence de destructeurs, ce qui veut simplement dire que la mémoire est gérée automatiquement pour vous en Python par le biais d'un système appelé garbage collector. Pas de destructeur, pas de raison en Python de vraiment s'intéresser à la manière dont la mémoire est désallouée. Et ce qu'on verra aussi au fil des vidéos, en contraste avec la présentation générale des vidéos précédentes, c'est qu'il n'y a pas de contrôle d'accès en Python. Plus précisément, ce qu'on verra, c'est que le contrôle d'accès, il est implicite. Enfin, il n'est pas garanti par le langage, il repose sur les conventions. Voilà à quoi ressemble une classe Python. Ici, j'implémente simplement une classe pour représenter des coordonnées cartésiennes. J'appelle ma classe coordinates. Vous voyez que j'indique qu'il s'agit d'une classe, simplement en utilisant le mot-clé classe. Et ce que vous voyez à l'intérieur de ma classe coordinates, ici, c'est la définition de trois méthodes. Comme toujours en Python, c'est l'indentation qui donne l'imbrication des éléments les uns à l'intérieur des autres. C'est donc l'indentation qui m'a permis de dire que ces trois méthodes étaient dans la classe coordinates. Et en contraste, vous voyez qu'ici, l'indentation me dit que ce qui se trouve sur la partie inférieure de mon transparent est en dehors de la classe. Donc, c'est un exemple d'utilisation de la classe. Donc, regardons maintenant les méthodes de cette classe coordinates. La première méthode, ici, underscore, underscore, init, underscore, underscore, c'est le constructeur de ma classe. C'est la manière dont je vais construire des instances de ma classe, la manière dont je vais construire des objets. Ce que vous voyez, c'est que ma méthode ici prend trois paramètres. Toutes mes méthodes prennent un premier paramètre qui est self, qui représente l'instance sur laquelle je travaille, l'objet sur lequel je travaille, et ici deux autres paramètres, x0 et y0. Et ce que vous voyez dans le corps de mon constructeur ici, c'est que j'affecte à self.x la valeur x0 et à self.y la valeur y0. Self.x et self.y, ici, ce sont des variables d'instance, des attributs de la classe que je suis en train de construire. D'accord ? J'ajoute ces deux attributs, x et y, à ma classe. Si vous venez d'un langage de programmation comme C++, une différence notable, c'est que je n'ai pas dans ma classe de déclaration explicite de mes attributs avec, par exemple, leur type. Tout se fait implicitement ici par affectation, ce qui est raccord avec le caractère dynamique du langage. Donc, ce constructeur me sert à construire une nouvelle instance, un nouvel objet, avec deux champs x et y, dont les valeurs initiales sont les paramètres reçus par le constructeur, ici, x0 et y0. Et ensuite, j'ai deux méthodes, entre guillemets, normales, donc pas des constructeurs, translate et display. Translate, qui translate les valeurs de ma coordonnée par delta x et delta y. Vous voyez ici que je mets à jour mes attributs. Et méthode display qui se contente d'afficher à l'aide de la fonction print les coordonnées à l'écran. Ça, c'est pour la définition de ma classe. En termes d'utilisation, on a les quatre lignes en bas du transparent. Cette première ligne, elle sert à appeler le constructeur de la classe. Donc, je crée une nouvelle variable appelée C et je lui affecte la valeur calculé par le constructeur. Donc, ça construit un nouvel objet avec les valeurs 1 et 2. Et ensuite, si je veux appeler mes autres méthodes de la classe, vous voyez que je le fais en redonnant le nom de la variable qui désigne mon objet et en appelant la méthode translate ici avec deux paramètres qui sont évidemment mon dx et mon dy ici, ou sur la dernière ligne en appelant display. Ici, je n'ai pas de paramètres à passer puisque vous voyez que je n'ai que self. D'accord. Ce qu'il faut bien comprendre, la subtilité peut-être de ce transparent, c'est que le self ici et là est passé implicitement lors de l'appel. Il s'agit de l'instance sur laquelle je travaille, donc ici de l'objet désigné par la variable C. Et la dernière ligne que je n'ai pas commentée sur ce transparent, c'est ici la ligne avec print. Ce que vous voyez, c'est que je peux accéder aux attributs x et y de mon objet en écrivant tout simplement c.x et c.y. Si vous voulez ajouter de la documentation à une classe que vous développez, vous le faites en écrivant des chaînes de caractères qui commencent et se terminent par 3 guillemets. Et vous voyez ici sur ce transparent comment placer ces chaînes de caractères particulières en fonction de la chose que vous souhaitez commenter. Vous voyez que pour commenter une méthode, vous placez cette chaîne particulière juste après la ligne avec le mot-clé def. On l'a ici pour le constructeur et ici pour la méthode translate. Et si vous voulez écrire la documentation pour la classe dans son ensemble, vous placez ça immédiatement après la ligne qui contient le mot-clé classe. Une différence qu'il faut faire immédiatement quand on commence à faire de la programmation orientée objet et qui n'est pas toujours très claire, c'est la notion entre d'un côté ce qu'on appelle une classe, que je viens de présenter, et d'autre part la notion d'objet ou d'instance. On utilise les deux termes de manière équivalente ici. Donc pour essayer de vous faire sentir cette différence, regardons ce petit morceau de code ici. J'ai une première ligne qui affecte 12 à la variable i. Ensuite, j'appelle le constructeur de cordes avec les valeurs 1 et 2 et je stocke le résultat dans la variable c. Et ensuite, j'appelle la méthode display sur l'instance c. Ce que je fais figurer sur le bas du transparent, c'est ce qui se passe en mémoire lorsque ces lignes sont exécutées. Donc, quand Python exécute la ligne i égale 12, il va créer l'espace pour se souvenir qu'à la variable i, il affecte la variable 12, la valeur 12. Et quand Python va exécuter la deuxième ligne, il va appeler le constructeur de la classe cohorte. De la même manière, il va se souvenir dans quelle variable vous souhaitez stocker le résultat. Et ce qui va se passer en mémoire, c'est qu'il va construire une structure pour se souvenir que la valeur est une instance de la classe cohorte. Et l'appel du constructeur avec les variables 1 et 2 va créer les attributs x et y en leur assignant les variables 1 et 2. Donc c'est ça ce qui va se passer en mémoire lorsque vous appelez le constructeur. Et lorsque vous allez exécuter c.display, ce que va faire Python, c'est qu'il va aller exécuter la méthode display définie dans la classe cohorte. Il sait que c'est la classe cohorte parce que lorsque vous faites référence à C, il se souvient de quelle classe il s'agit. Donc il va appeler la méthode display. Et je l'ai déjà dit sur un transparent passant, mais je le répète parce que c'est très important. Le code de cette méthode va être exécuté avec, pour valeur de self, la valeur C, c'est-à-dire cet objet-ci en mémoire. Donc ce qui va être exécuté, in fine, c'est l'équivalent de print de C.x et C.y. Donc ça va afficher 1 et 2. Comme je l'ai dit, c'est une distinction extrêmement importante, la distinction entre classe et instance en programmation orientée objet. Donc, j'insiste sur ce transparent. Pour faire un parallèle, pour peut-être vous aider à bien saisir la différence entre les deux, dites-vous que la classe, elle définit un concept de manière générale, et l'instance, c'est une entité qui correspond à ce concept. Et ce que je dis souvent en termes de parallèle par rapport à des notions familières en mathématiques, c'est que vous avez le même rapport entre instance et classe que vous avez entre un élément et l'ensemble, un ensemble contenant ces éléments. Pour le dire peut-être de manière encore plus claire, si ma classe, c'est l'ensemble des entiers naturels, eh bien une instance de ma classe, ça va être l'entier 13.